Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle de découverte d'un livre à travers la lecture d'extraits choisis par Catherine ou Hervé. Il s'agit de vous mettre dans l'ambiance du livre, de vous le faire apprécier et de vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement installé chez vous dans votre canapé, un dimanche à l'heure du café. Nous nous déconfinons à peine et l'enregistrement de l'émission se fait encore une fois à distance, et il faut le dire dans des conditions un peu difficiles. Mais les choses évoluent et, patience, nous reviendrons bientôt à la normale. Aujourd'hui, c'est Hervé qui est à la manœuvre. Bonjour Hervé.
Bonjour Dominique. Aujourd'hui, j'ai choisi un roman publié en 2002 au Royaume-Uni et traduit en français 10 ans plus tard. Ce roman s'appelle « La grande course de Flanagan » de Tom McNab. Ça raconte l'histoire d'une gigantesque course à pied à étapes à travers les États-Unis d'Amérique, d'est en ouest, c'est-à-dire de Los Angeles à New York. Plus de 5000 kilomètres à courir. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. Il se trouve que j'avais lu ce roman à sa sortie et il m'avait emballé. Et puis le temps a passé et ce roman, bien que traduit en 16 langues à l'époque, était passé aux oubliettes. Juste avant le confinement, désormais on pourra dire avant ou après le confinement. Donc en l'an zéro avant le confinement, une amie m'a dit que ce roman était à nouveau publié aux éditions Autrement. La librairie étant fermée, je me suis donc précipité sur Internet pour le commander en évitant Amazon. C'est possible. Il y a même des sites français de vente de livres d'occasion. Et nous voilà donc aujourd'hui avec cet ancien livre republié pour le plus grand plaisir des lecteurs. À 2h30 exactement, Charles Flanagan ajusta son épingle de cravate, redressa le mouchoir dans la poche de son impeccable costume gris et regarda les journalistes qui bavardaient et griffonnaient au-dessous de lui. La Transamérica avait rassemblé les reporters du monde entier, des hommes qui se rencontraient rarement en dehors des Olympiades et qui maintenant se bousculaient, se hélaient, griffonnaient et jacassaient, attendant tous le moment où la Transamérica allait prendre vie. La salle elle-même avait un caractère sobre et imposant. Chaises de cuir marron, murs lambrissés de chêne et décorés des portraits d'anciens présidents. « Messieurs, messieurs » fit-il tout en congédiant d'un geste les photographes et en s'asseyant. « Nous devons passer à l'ordre du jour. » Il frappa la table d'un lourd maillet de bois, mais il fallut une bonne minute pour que s'apaise le brouhaha. « Voulez-vous poser la première question, je vous prie ?» « Quelle distance devront franchir les coureurs ?» cria un journaliste qui se tenait vers l'avant de la salle. « 5063 kilomètres. » « Charles Ray, Washington Post, quel est le montant du premier prix ?»« 150 000 $ or, garanti par la National Bank of America, » répondit Flanagan. « Et les autres prix ?» demanda Rae, toujours debout. 50 000 $ pour le second en descendant jusqu'à 200 $ pour la centième place. Le total est de 360 000 $. Il y a de quoi grappiller. Il y eut aussitôt un brouhaha de discussion tandis que les journalistes étrangers évaluaient le montant des prix en livres, en marques et en francs. Flanagan donna un nouveau coup de marteau sur la table pour réclamer le silence. « Peut-on dire qu'il s'agit de la course à pied la plus richement dotée de tous les temps ?» reprit Rae. « Crénant, vous pouvez le dire !» répondit Flanagan en souriant. « D'ailleurs, j'insiste sur ce point. »« Et à combien se monte le droit d'inscription ?» demanda un autre journaliste. « 200 $ par personne !» Pollard pointa son crayon vers Flanagan. « N'est-ce pas un peu élevé dans les circonstances économiques actuelles ?» Flanagan posa les deux mains à plat sur la table. « Les temps sont durs, messieurs. Vous devez considérer que nous fournissons 3 repas copieux par jour pendant près de 3 mois. Les amis, vous vous apercevrez bientôt qu'il valait la peine de venir juste pour la nourriture. » Il leva la main pour apaiser le vacarme. « Plaisanterie à part, il me fallait une preuve de bonne foi de la part de chacun des concurrents. La plupart sont parrainés par des États ou des nations. Le droit d'inscription de $200 était la meilleure garantie. Question suivante, je vous prie. Combien de kilomètres vont-ils parcourir par jour ? Cria une voix inconnue au fond de la salle. Une moyenne de 80, généralement divisée en deux étapes. Le minimum est de 48, le maximum de 98. Personne n'a jamais couru 80 km par jour à travers l'Amérique, insista le journaliste. Pas que je sache, ni que je me souvienne, répondit Alexander Cole, dit Doc, champion américain du marathon inscrit dans la course. Il y eut un brouhaha de discussion et de froissement de papier, tandis que les journalistes comparaient leurs notes. Merci, Doc, conclut Flanagan, profitant du ralentissement des questions. Question suivante, s'il vous plaît. Que se passe-t-il si quelqu'un abandonne ? Comment rentre-t-il chez lui ? Poursuivit un autre journaliste. Du mieux qu'il peut, répondit Flanagan. Messieurs, ici, il s'agit de saisir sa chance. Il n'y a pas d'aumône dans la Transamérica. Ces athlètes sont venus de 61 nations du monde entier. Certains sont chômeurs, d'autres ont vendu leur maison, d'autres encore ont laissé femmes ou fiancées pour disputer cette course. Ce sont des hommes, messieurs. Ils savent que c'est un pari, parce que personne dans l'histoire n'a jamais couru 5000 km à travers les États-Unis d'Amérique. Ces hommes sont des athlètes, ce sont aussi des joueurs. Ils parient que leur corps pourra tenir le coup. Glenda Farrell, du Women's Home Journal. Combien de femmes participent-elles à cette course, monsieur Flanagan ? 121. Et y a-t-il des prix séparés pour elles ? Non, répondit Flanagan. J'estime que puisque les femmes essaient toujours de prouver qu'elles sont égales de l'homme, elles ont ici leur chance. Mais quelle est la plus longue distance jamais couverte par une femme, monsieur Flanagan ? Flanagan se pencha sur ses notes. La plus longue distance olympique est de 800 mètres, environ un demi-mile. Et n'y a-t-il pas eu des protestations aux Jeux olympiques d'Amsterdam à propos des conditions atroces dans lesquelles ont terminé les concurrentes féminines du 800 mètres ? Flanagan, l'air embarrassé, chuchota un moment avec Willard, son second. Il répondit enfin. Nous supposons que les dames inscrites dans la course se seront préparées à fond pour la Transamérica. Seul le temps nous dira si leur préparation a été suffisamment poussée. Question suivante. Karl Liebnitz, New York Times. Je vois que vous avez parmi les inscrits un Mexicain de 19 ans, Juan Martinez. Nous ne connaissons rien de la carrière sportive de M. Martinez. Avez-vous des renseignements sur lui ? Flanagan se pencha sur sa droite pour chuchoter quelque chose à Willard. « Je crains de ne pouvoir guère vous aider, Karl. Nous savons qu'il est le seul Mexicain inscrit et qu'il a été subventionné par son village Cuanto. Cuanto se trouve en plein centre d'une zone de famine. J'ai parlé avec le jeune Martinez. D'après mes renseignements, il court dans la Transaméricaine pour sauver son village de la disette. » Flanagan parcourut la salle d'un bref regard. « Voici votre papier, messieurs. » conclut-il en souriant.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. even just because you care. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Deux mots sur l'auteur, c'est mon habitude. Tom McNabb est un romancier écossais. Ancien athlète et entraîneur olympique, il a été 5 fois champion national du triple saut et directeur technique du film aux 4 Oscars, Les Chariots de Feu, sorti en 1981. Donc, La Grande Course de Flanagan était, je crois, son premier roman. Attention au départ, accrochez-vous. Mesdames et messieurs, tonna Charles Flanagan dans le microphone après s'être éclairci la voix. Le bruit fit s'envoler une nuée de pigeons au-dessus des colonnes romaines du Colisée de Los Angeles. Mesdames et messieurs, rugit de nouveau Flanagan, nous vivons actuellement un moment historique. Il regarda l'horloge du stade de l'autre côté de la piste. Dans 10 minutes sera donné le départ de la plus grande course de fond professionnelle jamais courue dans l'histoire de l'humanité. Une course dans laquelle l'élite des athlètes du monde entier entreprendra de traverser le grand continent américain. Chacun de ces hommes est un nouveau Christophe Colomb, car il pénètre dans l'inconnu pour se lancer dans une conquête jamais tentée auparavant par aucun athlète. Je vous souhaite à tous, hommes et femmes qui participez, bonne chance. Mon devoir est de veiller à ce que la course soit loyale et honnête, et je m'efforcerai de l'assurer du mieux que je pourrai. Flanagan se tourna à demi vers les célébrités assises derrière lui sur l'estrade. Certains d'entre vous auront déjà reconnu les éminentes personnalités qui ont consenti à honorer cet événement de leur présence. Monsieur Buster Keaton. Tous les yeux convergèrent sur un petit homme maussade assis à la droite de Flanagan. Miss Mary Pickford. Il y eut une vague d'applaudissements tandis que Flanagan s'écartait pour qu'on pût voir la petite fiancée de l'Amérique. Et enfin, un homme que j'ai le privilège de compter parmi mes amis, un homme qui est à la fois un grand athlète et un grand acteur, l'homme qui va vous lancer aujourd'hui dans la traversée de l'Amérique, Monsieur Douglas Fairbanks. Des vagues d'applaudissements éclatèrent de tous côtés. Fairbanks était connu pour être un fanatique de la forme physique, un acteur qui tenait à jouer lui-même les séquences acrobatiques de ses rôles. Bien que l'avènement du parlant eût fait pâlir son étoile, il était encore très populaire. Mister America pour le monde entier. « Mes amis, dit-il, en faisant taire les applaudissements de ses mains levées, dès que j'ai entendu parler de la course de Monsieur Flanagan, ma première pensée a été de m'y inscrire moi-même. » Il y eut des rires et Fairbanks attendit que le stade fût redevenu silencieux. Heureusement, j'ai suivi des conseils plus avisés. Plaisanterie à part, je me sens profondément honoré d'être ici. Je suppose que d'une certaine façon, cette course représente le grand rêve américain. Il est certain que beaucoup d'entre vous, hommes et femmes, ont connu des moments difficiles. Mais à présent, d'un coup de dé, vous pouvez être changé grâce à la Transamérica. Il prit sur la table un lourd fusil de chasse à canon double. Alors, mesdames et messieurs, à vos marques. Dans la foule qui se trouvait devant lui, chaque muscle se tendit. Les silences du Colisée n'étaient plus troublés que par des glapissements des mouettes du Pacifique qui cournoyaient entre les colonnes romaines. Fairbanks abaissa les yeux vers la piste en cendrée où les coureurs se pressaient en rangs successifs tout autour de la pelouse verte. Il eut l'impression d'y voir un animal silencieux et immobile, impatient d'être lâché. « Prêt ? » Fairbanks jouait son rôle à fond, conscient de la tension qui régnait sur le stade. Son doigt se raidit sur la détente de Winchester. « Partez !» Le coup de feu et le rugissement de la foule et le vacarme des fanfares regroupés sur la pelouse centrale parurent se fondre en une seule explosion. Le peloton se mit aussitôt en mouvement comme un flot de lave s'écroulant au flanc d'une montagne. Certains coureurs, excités par cette dramatique mise en scène, sprintaient à travers la foule et glissaient, trébuchaient ou tombaient en se heurtant à des concurrents plus lents et plus avisés qui se trouvaient sous leurs pas. D'autres se contentaient d'attendre, immobiles, que l'espace s'ouvrît devant eux. D'autres encore se mettaient en marche d'un pas vif et déhanché pendant une demi-heure, tout en adressant aux spectateurs des cris et des signes de main. La meute courut autour du stade pour couvrir 3 kilomètres de piste avant de s'élancer sur la route. Elle se déversa ensuite dans le parking à travers le tumulte discordant du carnaval de Flanagan, puis dans les rues de Los Angeles, noires de monde et encombrées de voitures. Les écarts de vitesse étaient importants. Depuis des marcheurs vêtus des pieds à la tête qui se déplaçaient à une allure tranquille d'un peu plus de 6 km à l'heure, jusqu'aux athlètes entraînés qui couraient au moins 2 fois plus vite. Aucun rythme n'aurait pu être maintenu pendant 25 km, pensa Doc, et moins encore pendant 47. Il semblait à peine se mouvoir et progresser à un petit train régulier sur les talons, ses jambes arquées, couleur broue de noix, avalant la route poussiéreuse sillonnée d'ortinières. Pourtant, tout autour de lui, des coureurs ralentissaient déjà, se mettant au petit trot ou au pas de marche. Après moins de 8 kilomètres, les concurrents s'arrêtaient et s'asseyaient sur le bord de la route, haletant de fatigue, pour contempler d'un air hébété le flot des coureurs qui se déversaient par des trottoirs encombrés vers la sortie est de la ville. Doc n'avait prévu ni la densité de la circulation ni la foule. Pendant les 15 premiers kilomètres, on avait garé les voitures sur 2 ou 3 files et des milliers de spectateurs se pressaient au long du parcours pour applaudir et acclamer les coureurs, ne laissant à ces derniers qu'un étroit passage. Avec ses 60 kilos, Cole avait le profil idéal pour un coureur de fond. Sa musculature se découpait parfaitement sur son corps cuivré. Et on observait les muscles de son dos qui frémissaient et ondoyaient au rythme de la course, fléchissant et se relâchant à chaque foulée. Sur le visage impassible du coureur n'apparaissait aucun signe de son effort, dont la seule manifestation était la sueur qui courait et en ruisseau sur les muscles de sa poitrine et de son dos. Cole consulta sa montre bracelet. Encore 30 kilomètres, pas de problème. Ce roman de Tom McNabb nous raconte donc l'aventure démesurée d'une grande course de fond. Incroyable marathon entre Los Angeles et New York, tu l'as compris Dominique, qui n'a rien d'imaginaire. Cette folie pédestre est née en effet sur l'initiative d'un manager de spectacle qui lança, elle s'appelait comme ça, la Trans-American Foot Race, courue à la fin des années 20, donc juste après la grande crise économique de 1929. On peut vraiment la qualifier de course de folie. Parce qu'au départ, en vrai, il y avait 199 coureurs, dont 55 seulement achevèrent le parcours. Course de folie. En 84 jours. Et elle était tellement folle, cette course, que les journalistes qui l'ont suivie n'étaient pas folichons, on peut dire. Ils n'étaient pas emballés. Et les premiers commentaires étaient... franchement, assez négatif. Americana, dépêche du 21 mars 1931, Flanaganville. Les 2000 membres de la caravane cosmopolite de Charles Flanagan vont s'en aller maintenant K1K vers San Bernardino. Après 2 heures de distraction carnavalesque dans un colisée bondé, Douglas Fairbanks, le bouffon à ressort de l'écran gagné par l'embonpoint, a pressé la détente de la Winchester qui devait lancer les hordes de Flanagan sur la route de New York. De nombreux concurrents ont malheureusement souffert de chutes, de foulures et de contusions avant même d'atteindre la sortie du Colisée. Des centaines de Transaméricains, en effet, s'étant visiblement trompés d'environ 5000 km dans l'évaluation de la distance qui sépare Los Angeles de New York, se sont rués à l'assaut de la piste en escaladant les corps de leurs compagnons renversés, impatients d'atteindre leur lointain objectif. Dès les 15 premiers kilomètres du côté de San Gabriel, les trottoirs étaient jonchés d'épaves laissées par l'entreprise de M. Flanagan. Avant que l'autocar de la presse n'ait atteint Montebello, votre correspondant a compté au moins 40 femmes assises au bord de la route, l'air égaré, qui toussaient dans les gaz d'échappement dégagés par les voitures. D'autres ont parcouru en titubant une dizaine de kilomètres de plus vers Pomona avant de s'effondrer dans des camions-balais de M. Flanagan. Près de 200 concurrents ont dû renoncer à terminer la première étape dont l'arrivée se situait à Pomona Hill, juste à l'extérieur de la ville où un camp avait été installé, baptisé aussitôt Flanaganville, par ses résidents eux-mêmes. Cette première étape n'a pas été riche en matière de compétition. Le coureur écossais Hugh MacPhail a franchi le premier la ligne d'arrivée en compagnie de l'aristocrate anglais Lord Turley, suivi d'Alexander Doc Cole, ancien colporteur de foire âgé de 54 ans, et du Pennsylvanien Michael Morgan, eux-mêmes suivis de près par l'équipe allemande, les All Americans. Avec ses tentes d'infirmerie regorgeant d'éclopés, Flanaganville ressemble beaucoup plus à un poste de secours de Gettysburg qu'à l'arrivée d'une course à pied. Il reste à voir si la Transamérica de M. Flanagan est une authentique compétition d'athlétisme ou simplement une de ces tristes et démentes petites excentricités sportives caractéristiques de notre temps. En attendant, le seul à en tirer profit est M. Flanagan, que l'abandon de 200 et quelques concurrents a enrichi de 40 000 dollars.
Something's happening in the country, and the government's to blame. We got married in a gold rush, and the rush has never felt the same. Shared a moment in a cafe, shared a kiss in pouring rain. We got married in a gold rush, and the sight of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Good, if you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. Desert.
All that loving turned to hate.
We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud.
Boy, who's your baby?
Girl, if you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. The rush is on to somewhere else, we're running out of time. Everything was ours, now it's just an empty mind.
Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine.
I thought you might learn the language,
I thought you might learn to sing.
We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I wanna put things back together,
I wanna give, don't wanna take.
Time to disavow the gold rush and the bitterness that's flourished in its wake. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud.
Please don't say it
Cette course donc se perpétue encore de nos jours. La dernière en date ayant eu lieu en 2015. J'ai vérifié donc, Dominique, 5000 km courus en 84 jours, ça fait en réalité environ 60 km par jour. Mais si tu retranches les quelques jours de repos, parce que ces coureurs s'arrêtaient bien un jour par semaine, et bien là, cette fois-ci, tu divises les 5000 km par moins 65-70, et bien ça fait réellement plus de 80 km par jour. Et ça s'est fait en vrai. C'était démentiel. Et puis en plus, à l'époque, les États-Unis d'Amérique, dans les années 30, n'étaient pas macadamisés comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de pistes en terre, en dur. Et puis, donc, ils ont traversé des déserts, des montagnes. Tout ça, ça s'est fait en vrai. Doc jura entre ses dents. Müller, l'un des Allemands, avait immédiatement pris la tête en entraînant avec lui une vingtaine de coureurs. Morgan en était, ainsi que Martinez et Turlet. Au moment où la queue du peloton atteignait la route de Barstow, à environ 3 km du départ, les groupes de tête avaient déjà 200 mètres d'avance et s'engageaient dans le désert. 2 km plus loin, Doc consulta sa montre. Les leaders couraient à près de 5 minutes et demie au kilomètre, sinon mieux, c'était de la folie. Il ralentit son allure sans se soucier des coureurs qui le dépassaient. Il se trouva bientôt à côté de Kate Sheridan et se laissa distancer pour l'observer, puis remonta à sa hauteur. « Revenez sur vos talons, jeune dame, gardez une foulée basse. C'est une course de fond, pas un sprint. » Elle ne répondit pas. Environ 200 mètres plus loin, au passage des 16 km, Doc rejoignit l'équipe des All Americans qui se trouvait en 50e position. Comme il courait à une allure régulière, il resta à leur hauteur et but sans s'arrêter au second point d'eau. À 20 km du départ, il consulta sa montre, 1h45, à peu près dans les temps. Il s'enfonçait maintenant au cœur de la plaine raboteuse du Mojave, brune et aride. Pareil à des spectateurs infirmes, seuls les cactus de barbarie aux formes tourmentées ponctuaient la route des coureurs qui progressaient lentement dans le désert à la suite des autocars de la presse, de la bruyante cafetière Maxwell et du bus officiel de Flanagan. 60 ans plus tôt, le désert avait prélevé un lourd tribut sur les colons qui luttaient avec leurs chariots et leurs charrettes à bras contre le soleil, le roc et le sable, constamment harcelés par les Indiens en embuscade. Les Indiens avaient disparu, mais la nature constituait un ennemi suffisant pour ces hommes qui luttaient entre eux et contre eux-mêmes. Doc, qui avait lâché les Américains au 15e kilomètre, était remonté à 12 km de l'arrivée en 16e position. Il se joignit à MacPhail, 2 km plus loin, et ils recueillirent les laissés pour compte de la première échappée de Müller, épuisés, réduits à se traîner au petit trot ou même à marcher. Doc maintenait son allure d'11 km à l'heure. Comme MacPhail, il apercevait Müller et les autres à plus d'un kilomètre et demi devant, juste derrière les autocars. Plus qu'un kilomètre, les trois leaders distinguaient déjà dans le soleil flamboyant du désert le camp de Flanagan dressé sur une colline broussailleuse en bordure de la route. Trio uni par un étrange et fragile équilibre, ils couraient presque en ligne, les épaules de Müller précédant à peine celles de ses adversaires. C'est alors que Morgan décida de briser l'enchantement qui les liait les uns aux autres et força l'allure. Ni Martinez ni Müller ne réagirent. Ils s'étaient détachés. 100 mètres plus loin, il entendit de nouveau la respiration saccadée de Müller à sa droite. Alors que l'Allemand arrivait à sa hauteur, il se sentit un instant submergé par le désespoir. Ils couraient rivés l'un à l'autre, le souffle rauque, chacune de leurs fibres poussées à sa limite, indifférents aux cris de la foule qui les attendait et aux coups de klaxon des voitures et des autocars massés près de l'arrivée, isolés en plein désert. Tout ce qu'ils pouvaient entendre, c'était le raclement de l'air dans leurs poumons. Leur foulée était basse, leurs jambes fléchies et vacillantes, à peine capables de supporter le poids de leur corps. 500 dollars ! 500 dollars ! Morgane avait l'impression que son corps n'était plus qu'un poumon haletant qui aspirait l'oxygène à grandes gorgées désespérées. 500 $, encore 100 mètres. Il tenta d'extraire de son corps un dernier effort, mais n'en trouva pas la ressource. Impossible d'aller plus vite. Et soudain, alors qu'il se sentait sur le point de défaillir, l'épaule brune menaçante qui se trouvait à son côté disparut. Muller lâcha prise et avec un hoquet de tout son corps, et Morgane passa devant le bus officiel avec une bonne dizaine de mètres d'avance. À moins d'un kilomètre derrière lui, Doc et MacPhail rejoignirent un Martinez épuisé qui parvint à esquisser un sourire là, le visage dégoulinant de sueur. Il pointa un doigt contre sa tempe à leur passage. « Sont dingues, dit-il, sont dingues !» Les quatre hommes formaient maintenant un demi-cercle serré. « Pourquoi, à votre avis, Muller a-t-il démarré si fort ?» Doc secoua la tête et se mit à délacer lentement ses chaussures. « Je n'en sais rien. Il a dû faire les 12 premiers kilomètres en moins d'une heure. C'est dingue !» Il se laissa aller sur le dos. « Mais ce n'est pas la peine de se tracasser pour ça. 4 heures, ça veut dire 4 heures de roupillon !» Il déroula sa couverture et l'étendit sur le sol, puis il prit 2 couvertures roulées, les plaça au bout de son lit et posa ses pieds sur le traversin ainsi formé. « Pour la circulation, expliqua-t-il, en mettant les pieds plus haut que la tête, les déchets sont pompés plus facilement par le cœur. Essayez !» Il s'assongea sur sa litière. Quelques minutes plus tard, il ronflait bruyamment.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans Aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, je me rends plus compte. La bébête qui monte quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, une normande sans armoire.
Donc, même si cette course a vraiment existé, nous sommes dans un roman, je te le rappelle. Et l'auteur imagine des tas de péripéties plus ou moins loufoques pour agrémenter le fil narratif. Alors, peu importe que ça soit vrai ou pas, je ne sais pas dans quelles conditions s'est déroulée cette course en vrai. Puisque nous sommes juste après la grande dépression économique de 1929, là pour nos jeunes auditeurs qu'ils se renseignent sur internet ce qu'était la grande dépression économique de 1929, c'est pire que le confinement qu'on a vécu, hein, et qui a mis des tas de travailleurs sur la paille, notamment aux États-Unis. Et donc, les coureurs sont souvent obligés de participer à des vrais jeux de cirque pour se comparer à d'autres, pour faire des pseudo-combats, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et par exemple, un match de boxe. Par exemple, des jeux écossais. Comment ça s'appelait, les jeux écossais en Écosse, Dominique? Tu te rappelles de ça? Tu sais, il y a des games en Écosse qui perdurent encore de nos jours, où il y a des Écossais qui portent des troncs et qui les lancent le plus loin possible.
Je ne connais pas ça.
Ah oui, ça, j'ai assisté à ça un jour. C'est absolument extraordinaire. Ou alors, ils ont un poteau télégraphique quelconque, et alors, ils sont obligés de tailler des marches dedans pour monter le plus vite possible. C'est bizarre, c'est complètement loufoque. Bon, ben donc, il y avait des jeux comme ça. Et une fois, les coureurs ont affronté un cheval. Alors, pour être exact, c'était un trotteur. Et vous savez que les trotteurs sont obligés de trotter et ils n'ont pas le droit de galoper. Ce qui fait que ce cheval, a priori, était bien plus rapide que les coureurs. Mais à chaque fois qu'il se mettait à galoper, on entendait une corne de brume et il y avait une pénalité, je crois, de 30 secondes. Et c'est là-dessus que comptait Flanagan pour faire ralentir le cheval, pour avec un espoir que ses coureurs gagnent. Peter Turley enleva son peignoir, révélant son maillot et son short de soie aux couleurs d'Oxford. Il n'avait jamais couru de relais continu de cette espèce et n'avait aucune idée de la façon dont son corps allait réagir à 8 parcours de 1500 mètres en terrain accidenté, entrecoupés chacun d'un repos de 5 minutes. Mais en homme de cheval, il voyait mal comment Morgan et lui pourraient rivaliser avec un étalon du calibre de Silver Star. Il jeta un regard sur sa gauche en direction de Levy, le propriétaire de Silver Star, immobile, le fouet à la main. Prêt ? Au coup de fusil, Silver Star s'élança sur la piste d'un mouvement puissant et précis, laissant derrière lui Turley démarrer d'un pas lourd. La foule rugit, c'était ce qu'elle attendait. Quand Silver Star franchit la porte du stade au bout de la ligne droite, Levy avait déjà 100 mètres d'avance. Mais le parcours de cross-country était inégal et chaotique. Silver Star ralentit, tandis que le sulky flexible grinçait et dérapait sur le sol raboteux. Turley, par contre, avançait d'un mouvement fluide et aisé. Pourtant, bien qu'il eût passé la borne des 1200 mètres en 3 minutes 50 secondes, Silver Star rentra dans le stade à près de 250 mètres devant lui. Turley avait couvert le premier tour en 4 minutes 50 secondes, Silver Star en 4 minutes et seulement 10 secondes. « Parfait !» dit Doc, tandis que Morgan s'élançait dans le second tour. Morgan, qui ne connaissait pas d'autre méthode que se donner à fond, accomplit son tour en 4 minutes 48. Silver Star, qui avait maintenu 1 minute 10 secondes d'avance sur eux, se trouvait déjà dans la campagne quand Morgan arriva. « La même chose, Peter !» dit Doc en assénant une tape sur la cuisse de Turley à l'arrivée de Morgan. Turley fit un troisième tour rapide en 4 minutes 45. Silver Star les devançait maintenant d'une minute 35. Ce n'est pas une course, gémit Flanagan en se passant les mains dans les cheveux. Vous croyez ? Dit Doc. Jetez donc un coup d'œil au cheval. Il pointa un doigt vers le bout de la piste. Silver Star courait encore bien. Mais il était couvert de sueur et commençait à écumer. « Ce cheval se fatigue. Consultez le chronométrage. Nous avons perdu 40 secondes au premier tour, 30 au second et seulement 25 au troisième. Nous remontons, mon vieux. » Mais y aura-t-il assez de temps ? Doc consulta de nouveau sa montre, puis regarda Flanagan. « Flanagan, on peut encore y arriver. Silver Star fatigue et un cheval fatigué fait des fautes. À chaque fois qu'il se mettra au galop, nous gagnerons une demi-minute. » Flanagan secoua la tête. « J'espère que vous avez raison, » dit-il. Morgan réduisit encore de 5 secondes l'augmentation d'écart au quatrième tour qu'il couvrit en 4 minutes 43. Mais son pouls battait à 180 à l'arrivée. Il s'assit près de la ligne, haletant et dégoulinant de sueur. Un coup de clairon signala la première faute de Silver Star alors que Turley sortait du stade pour le cinquième tour. Une minute plus tard, retentit un second coup de clairon. L'arbitre s'approcha à grands pas du petit groupe de Flanagan. « Deux fautes de Silver Star », annonça-t-il, ce qui veut dire qu'il a été immobilisé pendant une minute. Doc siffla. « Voilà qui nous remet dans les temps. » et le cheval se fatigue de plus en plus. Exactement ce que j'avais prévu. Cet animal est fourbu. Doc avait raison. Là-bas sur la colline, Levi avait du mal à faire avancer Silver Star. Son cheval était avant tout un sprinter, totalement inadapté à une course prolongée en terrain accidenté avec deux fois son poids normal à traîner. Il fut bientôt réduit à une sorte de petit trottonnement, reprenant de temps à autre sous le fouet de Levi une version ralentie de son superbe trot habituel. Au cours du cinquième tour, Peter Turley parut le ramener à lui comme au bout d'une corde, réduisant peu à peu les 500 et quelques mètres qui le séparaient du cheval. Quand le clairon de l'arbitre eut signalé une autre faute à la moitié du sixième tour, Silver Star vit son avance se réduire à un peu plus d'une minute. Morgan grignotait à chaque foulée un peu de la distance qui le séparait du trotteur défaillant. Il parcourait ce sixième tour comme une machine et son souffle brûlait ses poumons surmenés. Pressentant ce qui se passait, la foule était déchirée entre son inquiétude pour le cheval bien-aimé et l'admiration que suscitait le courage des hommes qui avaient osé le défier. Quand Morgan entra sur le terrain, apparemment une éternité plus tard, l'écart n'était plus que de 40 secondes. Il restait 1,5 km à parcourir. « Nous n'y arriverons jamais », gémit Flanagan. « Même Nurmi ne pouvait pas gagner 40 secondes en 1500 mètres sur un cheval !» Mais Turley s'élança pour le dernier tour, haletant déjà dans les premiers 400 mètres. En sortant de l'enceinte, il leva les yeux vers Silver Star. Le cheval semblait s'être arrêté. Les chaos avaient desserré l'écrou de la roue droite du sulky, qui refusait de tourner. Levi regarda Turley, gravit péniblement la colline et jura. Il sauta gauchement de son siège pour chercher une clé à molette dans la trousse à outils accrochée à l'arrière du sulky. Turley, à une centaine de mètres de là, approchait lentement d'une foulée pesante. Levi s'efforçait encore de resserrer son écrou quand l'Anglais le dépassa. Lorsqu'il eut terminé sa réparation, Turley avait plus de 150 mètres d'avance à 800 mètres de l'arrivée. En tête pour la première fois, sans trop savoir pourquoi Levi s'était arrêté, Peter Turley était à l'agonie. Il parvenait encore tant bien que mal à conserver sa foulée, tout en s'efforçant de maintenir sa tête et ses épaules immobiles. Mais son souffle était de plus en plus rauque et haché. Silver Star était en haut de la côte et gagnait sur lui. Levi avait réussi à faire reprendre à son étalon une foulée qui approchait de son trot habituel. Bien que le cheval n'atteignît plus maintenant 20 km à l'heure, Levi, de son côté, voyait Turley descendre d'un pas vacillant le chemin rocheux. Mais il savait qu'il ne devait risquer ni une faute de Silver Star, ni une panne de roue en poussant le cheval dans la descente à sa poursuite. Non, il lui faudrait rattraper Turley sur le circuit final, sur la piste, là où Silver Star se retrouverait dans son élément. Arrivé sur le stade, il restait à Turley trois quarts de la piste de trop à parcourir. Les jambes coupées, le souffle en déroute, il savait que le cheval se rapprochait de plus en plus. Il avait franchi une centaine de mètres sur la surface souple de la piste quand il entendit derrière lui les cris et les acclamations de Silver Star venait d'entrer à son tour dans le stade. Encore 200 mètres, Turley puisa tout au fond de lui-même pour lancer son corps épuisé dans une grotesque parodie de sprint. Les genoux fléchis et les bras battant l'air, il entra sur la ligne droite. L'oxygène lui était maintenant un poison, mais il était loin au-delà de la douleur. Il dévorait la piste sans se soucier du bruit de sabots qui se rapprochait derrière lui. La ligne d'arrivée semblait reculer, mais il continua de courir, ses jambes ployant à chaque foulée. Et il frappa le ruban avec ses dents avant de s'affaler de tout son long sur le sol dans une gerbe de terre, suivi à 1 mètre derrière par Silver Star. Il resta étendu sur la piste à plat ventre, crachant du sang et du sable, jusqu'à ce que Doc le remit debout, aussi mou qu'une poupée de chiffon. « Félicitations, Peter. Je crois que vous avez payé vos droits d'entrée. »
Little harbor church of St. Cecilia. rumba-ta, bass drum, tambourine, Rose of Jericho and bougainvillea. This is a lonely life, sorrows everywhere you turn.
And that's worth something when you think about it. That is worth some money. That's worth something when you think about it. That is worth some money.
Trip into the pearl gray morning sunlight that settles over Washington. A trip to the market, a trip around the world where the evening meal is negotiable if there is one. This is a lonely, lonely life. Sorrows everywhere you turn.
And that's worth something when you think about it. That is worth so much.
Dans tout roman qui se respecte, il y a forcément une histoire d'amour. L'amour est donc bien présent dans le roman entre un coureur, Morgan, pour ne pas vous le cacher, et la seule femme qui reste en course après plusieurs étapes, c'est-à-dire Kate Sheridan. Je l'ai déjà lu tout à l'heure. Et parce qu'évidemment, il faut bien se poser la question de la place de la femme dans une telle aventure, pour ceux qui se questionneraient sur les possibilités pour une femme de gagner une telle course, ou même de seulement la terminer, eh ben, du coup, je vous encourage à lire ce livre de bout en bout. Charles Fox avait bien rempli sa tâche. Par son bavardage, il avait entraîné Kate jusqu'au 19e kilomètre en 2h20. Puis il sentait la jeune Américaine faiblir. Bien qu'elle n'eût pas de problème de respiration, Kate sentait ses jambes s'alourdir, ses hanches s'affaisser, ses muscles absorber de plus en plus difficilement le contour irrégulier de la route en terre battue. « Ça va, mademoiselle ?» demanda Fox, de plus en plus conscient que les coureurs les dépassaient. Kate hocha faiblement la tête. La sueur lui piquait les yeux. « Pas de problème, » répondit-elle. « Allez-y, monsieur Fox. Nous nous reverrons au camp de Shotgun. Alors, essayez de garder une allure régulière, mademoiselle. Courez jusqu'au bout. » Malgré sa fatigue, Kate fut surprise en voyant Fox s'éloigner de l'apparente lenteur de sa propre course. Dieu seul savait de quoi elle-même avait l'air. Elle s'arrêta au poste de ravitaillement du 24e kilomètre et resta un moment parmi la douzaine de coureurs qui se tenaient devant la table. Elle s'aspergea le visage et le cou avant de boire deux gobelets d'eau. Puis elle consulta sa montre d'un œil désespéré. Il lui avait fallu près de 40 minutes pour franchir les 5 derniers kilomètres, une moyenne de 8 minutes au kilomètre. Cette fois, elle était fichue. Tout était fini. À plus de 5 kilomètres des hommes de tête, Kate agonisait debout. Elle n'avait jamais cessé de courir et la force de sa volonté dominait encore, mais son corps refusait en quelque sorte de réagir. Elle était vide. Ses jambes privées de vie avaient perdu tout semblant de rythme. Elle s'accrochait désespérément à chaque coureur qui passait en se maintenant à sa hauteur de son épaule, absorbant de lui une force et un élan momentané avant de retomber dans une lutte désordonnée dès qu'elle était distancée. Rien dans sa vie passée ne pouvait lui servir de point de référence pour exiger une réponse de muscles apparemment vidés de toute énergie. Elle leva les yeux vers la longue montée en pente douce qui prenait les proportions d'une montagne. Ses pieds quittaient désormais à peine le sol et elle voyait à travers la brume de chaleur, comme dans un mirage, un flot houleux de coureurs qui s'éloignaient devant elle en trottinant apparemment sur place vers le sommet de la colline. « Cours, Kate, cours !» dit une voix dans sa tête alors qu'elle gravissait la pente, éparpillant les petits cailloux de part et d'autre de la route et traînant les pieds dans la poussière rougeâtre. « Cours, Kate, cours !» s'entendit-elle répondre à travers les lèvres desséchées tandis que ses hanches s'alourdissaient de plus en plus. Elle gémit en atteignant le sommet de la colline et s'arrêta un moment les mains sur les hanches. Quand elle essaya de repartir, ses jambes refusèrent de la porter. Elle tomba, s'accrocha les épaules et les coudes en roulant sur le bas-côté rugueux de la route. Elle se retourna sur le dos, cracha de la poussière et demeura immobile. Elle crut un instant avoir perdu la vue car elle était incapable d'accommoder. La sueur salée lui piquait les yeux et lui coulait dans la bouche. Puis elle vit deux hommes au-dessus d'elle, deux hommes au même visage couvert de transpiration qui la regardaient d'en haut. Les deux visages sourirent et se penchèrent sur elle. « Relevez-vous !» dit une seule voix. Kate se souleva sur les coudes, secoua la tête et continua de cracher du sable et de la terre. « Relevez-vous !» répéta la voix, cette fois plus pressante. Kate secoua de nouveau la tête. Morgan la gifla violemment. Les deux images se fondirent avec une précision en une seule. « Espèce de salaud » cria-t-elle. Elle prit appui sur un bras pour se remettre en chancelant sur ses pieds. « Courez, jeune fille !» dit Morgan. « Vous avez 35 minutes pour faire les 5 derniers kilomètres. Vous pouvez y arriver. Allez !» Kate Sheridan parvint à esquisser un pâle sourire, remonta sur la route et se remit en mouvement. Ils coururent ensemble lentement d'abord, Kate ajustant sa foulée au rythme de Morgan. Du coin de l'œil droit, elle discernait son épaule gauche, la sentait l'entraîner vers leurs objectifs communs, sentant en lui un aimant qui l'attirait vers la ligne d'arrivée. Au-dessus d'eux, l'avion des actualités pâtées ne voyait qu'un seul coureur et une jeune femme progressait en titubant vers le crépuscule qui tombait. Alors qu'ils repartaient vers Los Angeles avec le film de la spectaculaire arrivée de la dernière étape de la journée, le pilote plongea vers la route et le caméraman termina sa pellicule sur les deux coureurs. En entendant le vrombissement de moteur au-dessus d'elle, Kate leva les yeux avec un pauvre sourire abattu. Peut-être après tout y arriverait-elle. Une heure plus tard, Flanagan regardait par la fenêtre de ce caravane les derniers coureurs entrer dans le camp en clopinant. « Alors, Willard, combien ont survécu » demanda-t-il. Au dernier relevé, 1280 coureurs aujourd'hui, répondit Willard en se levant de son bureau après avoir consulté son bloc-notes. Flanagan jura à haute voix, près de 1000 coureurs éliminés en 4 jours. Cette course ressemble de plus en plus à un massacre qu'à une compétition. Et la fille ? Vous voulez parler de Sheridan ? Willard feuilleta les fiches d'arrivée. Elle était dans les temps. Toutes les femmes, toutes les autres femmes ont été éliminées. Disons-le, sans dévoiler la fin du roman, évidemment, hein, la course ne se termine pas exactement comme Flanagan l'avait prévu. Je n'en dirai pas plus. Mais au moins, il y a une chose qu'il a véritablement gagnée, c'est le respect des journalistes. Et je terminerai sur la dernière rubrique, dépêche, comme on disait à l'époque, du même journaliste qu'au début du roman. Americana, dépêche du vendredi 19 juin 1931. Si les Grecs n'avaient pas réussi à vaincre les Perses à Marathon en 490 avant Jésus-Christ, il serait peu probable que 3 millions de New-Yorkais assistent demain à l'épreuve la plus richement dotée de l'histoire de la course à pied. De même, si en 1908 un serveur italien appelé Dorando Pietri avait su mesurer son pas et terminer le Marathon olympique de Londres, sans l'assistance des officiels, la distance que devront courir demain les coureurs de Charles Flanagan ne serait pas exactement de 42 km et 195 mètres. Mais les Grecs ont vaincu les Perses, et le soldat de Philippéide s'est lancé dans la course épique vers Athènes. Tout le monde essaie maintenant de tirer profit de la Transamérica, plus un agent hollywoodien s'est mis dans une situation fâcheuse pour n'avoir pas réussi à assurer à son client une place dans la tribune des personnalités de Central Park. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Nombreux étaient les sceptiques, et votre correspondant n'était pas des moindres, quand Charles Flanagan a lancé en mars dernier son équipe dépenaillée sur la route de l'Est au stade du Colisée de Los Angeles. Bon nombre de concurrents ne parvèrent même pas à terminer la première étape, et certains dépassèrent à peine le parking du Colisée. Mais Narine, sans doute hypersensible, avait cru sentir ce jour-là quelque chose de pourri dans l'État de Californie. Ceux de mes lecteurs qui ont montré suffisamment d'endurance pour rester avec moi depuis ces premiers jours savent que j'ai été converti très tôt par la Transamérica, comme l'a été le peuple des États-Unis. Inondations, bagarres, sabotages, défection des villes traversées, tempêtes de neige, rien n'a arrêté l'avance des hommes de Flanagan à travers le continent. Quand on écrira un jour l'histoire complète de la Transamérica, elle sera à mi-chemin entre l'Odyssée d'Homère et le roman de Mark Twain. L'une des premières réserves que j'avais formulées à propos de la Transamérica était qu'il y avait quelque chose d'obscène à voir au milieu de la pire crise de notre histoire, des hommes courir pour décrocher des prix aussi énormes. J'admets humblement mon erreur. L'athlète représente l'homme aux frontières de ses possibilités dans un domaine que peu de gens entrevoient et moins encore ont pénétré. C'est parce que nous en avons conscience que nous nous identifions avec l'athlète, parce que nous sentons intuitivement qu'il fait partie des quelques privilégiés proches d'accéder à leur véritable potentiel, alors que la plupart d'entre nous passent leur vie inconscients de l'existence même d'un tel potentiel. Vous aurez une idée de la nature de la Transamérica si je vous dis que chacun des coureurs a tenu à continuer la course jusqu'au New Jersey, afin de pouvoir légitimement affirmer qu'il avait couru d'un bout à l'autre depuis Los Angeles jusqu'à New York. Ces hommes étaient venus pour traverser les États-Unis à la course et ils ont refusé de se satisfaire de moins. Alors demain, même quand vous verrez quelques vétérans se traîner en 700e position sans espoir de remporter un prix, rappelez-vous qu'il fait partie des privilégiés, car il est l'un de ces hommes d'élite qui ont traversé l'Amérique à pied. C'est un transaméricain, et cela est en soi un honneur et une récompense. Oui, je sais, Dabinique, comme d'habitude, j'ai été long, sûrement trop long, on a peut-être dépassé l'heure, je ne sais pas. Mais vraiment, chers auditeurs, je vous encourage à lire ce roman, La Grande Course de Flanagan, de Top McNab, publié aux éditions Autrement.
Merci Hervé pour cette lecture réalisée dans des conditions inhabituelles. Chères auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour la découverte d'un autre livre. À bientôt !